Radio Stable.
Morning edition from
NPR News.
Que se reproduce esto en la radio.
France Inter. Le 18-20.
Si vous travaillez en mer et que vous assistez à un naufrage, c'est la règle de la mer. Il faut essayer de secourir. Après, s'il y a un problème avec les lois, vous pouvez en discuter.
C'est le maire de Lampedusa qui parle. L'île a voté massivement pour Matteo Salvini aux dernières européennes, mais quand on est ilien, on réfléchit souvent différemment et personne ne peut se résoudre là-bas à laisser mourir des migrants en mer. Ce sera l'escale reportage d'un jour dans le monde, dans un instant, sous les radars. Et Hélène Roussel, vous l'avez entendu, en Tchétchénie, à Tchernobyl et à la recherche de Bigfoot. Le monde à l'envers de Jean-Marc Four et cet avion de combat européen du futur avec la signature d'un accord cadre entre la France, l'Allemagne et un peu l'Espagne aussi. Très bien, mais c'est pas gagné, nous dira Jean-Marc. Pas de monde selon Trump ce soir et pour cause, Trump, on en parle tout de suite puisqu'il lance sa campagne 2020, le monde est vaste. Et on n'a qu'une heure, bonsoir.
Fabienne Saint-Fès. Un jour dans le monde.
Demain, à Orlando, en Floride, donc un peu dans son jardin, Donald Trump va lancer sa campagne pour sa réélection 2020. C'est parti, même assez tôt. Bonsoir Corentin Célin.
Bonsoir.
Vous êtes professeur agrégé en prépa, spécialiste des États-Unis. Grégory Phillips n'est pas loin et nous rejoindra depuis Washington dans un instant, puisque Grégory Phillips revient d'un petit voyage au pays de Trump, justement. Corentin Célin, c'est jamais très tôt pour les démocrates qui sont partis effectivement depuis un bout de temps, il faut bien qu'ils s'y mettent, mais est-ce que c'est pas tôt pour Trump lui-même de lancer son 2020 ou pas?
C'est tôt par rapport aux normes historiques, oui, on va dire, mais pas tôt du tout pour lui parce qu'en fait, depuis le jour 1 de sa présidence, il est en campagne de réélection. On le voit en particulier sur sa levée de fonds, qui est très importante aux États-Unis. Il faut rappeler que c'est un financement privé des élections. Trump a levé déjà jusqu'à aujourd'hui plus de 100 millions de dollars, environ 110 millions de dollars fin avril. Et à la même époque, Obama, en fin avril 2011, il avait levé 11 millions de dollars. Donc en fait, Trump, ces deux premières années, il était déjà en campagne. Demain, c'est uniquement une officialisation. Pourquoi? Simplement parce que ça correspond déjà à son tempérament. C'est un homme de tréteau, il adore ça, il adore la foule.
Au fond, c'est tout ce qu'il aime même, c'est faire campagne qu'il aime. Gouverner, visiblement, ça l'intéresse qu'à moitié, on s'en rend compte à bien des égards, mais faire campagne, ça oui.
Oui, et on s'en rend compte encore mieux là, parce qu'on sent que ça flatte son goût du gigantisme aussi. D'avoir des grandes salles, là, comme demain, le Amway Center, dire qu'on refuse du monde, qu'il va falloir installer des écrans géants. C'est effectivement cette ambiance survoltée, frénétique. Ça, il adore cette adrénaline-là. Et effectivement, on sent qu'il y a par contre des contraintes bureaucratiques et institutionnelles à Washington qui le lassent. Donc, il était impatient et il a préparé ça, mais de manière beaucoup plus professionnelle que la première fois.
Mais est-ce que ça veut dire qu'il ne se passe plus rien, en fait, hors campagne désormais aux États-Unis ou quasiment, si ce n'est gérer les très grosses affaires courantes? Alors, il y en a de vraies, des affaires courantes, à commencer par les affaires internationales et le détroit d'Ormuz en ce moment, etc. Mais est-ce que ça veut dire en fait que désormais, ces deux ans de campagne, y compris pour Donald Trump?
Oui, absolument. De toute façon, c'était un peu déjà le bilan des midterms. Parce que avec une chambre démocrate, de toute façon, comme il ne peut plus y avoir de consensus sur rien, sur le programme législatif intérieur, il n'y aura pas de grande réalisation. La politique internationale, effectivement, il a un peu plus de latitude parce que le président a plus de pouvoir pour agir seul. Mais effectivement, à partir de maintenant, on rentre en campagne électorale. Et lui, il est déjà rentré en campagne électorale. Ce week-end, si on regardait ses tweets, la plupart étaient consacrés à dire du mal des démocrates, à affubler Joe Biden de surnoms de plus en plus loufoques. Donc, il est déjà en campagne depuis un petit moment.
Avant la dernière élection, on l'a pris de très haut, ce Donald Trump, en fait. On n'a jamais cru qu'il pourrait être élu. C'était vraiment ce qu'il y avait dans l'air. On a l'impression qu'on est dans l'excès inverse aujourd'hui, que plus personne n'ose dire, au fond, que Trump ne peut pas gagner et que même, de toute façon, il sera réélu. Il doit bien y avoir quelque chose au milieu, non?
Oui, absolument, c'est ça. Il faut se méfier de ces deux écueils. C'est un peu Caribe des Scylla. Premier écueil, il faut quand même continuer à ne pas le sous-estimer. Bon, parce que c'est vrai qu'en ce moment, comme il a l'air en plus particulièrement tendu, énervé, depuis la publication du rapport Mueller, c'est vrai qu'il fait des tweets et des déclarations un peu plus insensé que d'ordinaire, et donc on a tendance à se dire on pourrait être non, c'est pas possible, il peut pas être réélu. Donc il faut éviter ça, parce qu'il a des très bons chiffres économiques, parce que le chômage n'a jamais été aussi bas depuis 50 ans, qu'on le veuille ou pas, et c'est sous la présidence Trump. Par contre, il faut effectivement aussi éviter l'écueil inverse, c'est-à-dire de se dire ah non, mais c'est sûr qu'il sera réélu, parce que pour une bonne et simple raison, on le voit dans tous les sondages, Il est à 45-46%, ce qui est plutôt haut pour lui.
Ah mais c'est marrant, moi j'avais un 41 sous les yeux. Mais
parce qu'il y a des sondages qui taillent bas, haut, mais il est entre 41 et 45. Grosso modo, il a gardé son socle électoral de 2016, mais il faut rappeler qu'en 2016, il est battu nettement au collège, au vote populaire. Il ne gagne qu'au collège électoral et surtout, il n'a jusqu'à présent jamais dans un sondage sérieux dépassé les 50% d'approbation, ce qui n'est jamais arrivé pour un président depuis Harry Truman. Je parle là des sondages sérieux, Gallup, qui durent depuis longtemps. Donc, ça reste un président avec un socle extrêmement fidèle, mais minoritaire. Donc, il n'est pas sûr d'être réélu non plus. C'est pas du 100% sûr.
Alors, on va y venir effectivement à ce que vous dites. D'abord, son socle, mais aussi les fameux sondages dont vous parlez. Effectivement, moi, j'avais un 41%, mais on peut le monter jusqu'à 45 ou 46. Vous le disiez, jamais au-dessus de 50. Et surtout, selon les derniers sondages, il est derrière au moins 4 des candidats démocrates. C'est une étude d'opinion qui a été aussi publiée par Fox, d'ailleurs, ce qui doit le mettre un peu dans tous ses états. Je voudrais vous faire écouter un extrait de Donald Trump en interview sur ABC en face de Stephanopoulos, et voilà comment lui parle de ses propres sondages. Écoutez.
Eh bien, je ne crois pas ces sondages. Impossible qu'ils me battent au Texas. Mes sondages ne disent pas que je suis derrière. Ils disent que je suis gagnant partout.
Mais on a vu ce rapport qui dit que Joe Biden est devant vous dans 15 États sur 17.
Mais personne n'a pu vous montrer ces sondages, car il n'existe pas. Je perdrai dans 15 États sur 17? Non, ça n'existe pas. Je viens d'avoir une réunion avec mes sondeurs. Pour vous dire la vérité, je ne crois pas les sondages. Mais bref, je viens d'avoir une rencontre avec l'un de mes sondeurs et je gagne partout.
Je gagne partout. Et alors, c'est fou, c'est du vrai Trump, vrai de vrai, qui fonctionne, j'imagine, à certains égards, d'ailleurs. Et il paraît même, c'est Grégory Phillips qui nous le confirmera peut-être tout à l'heure, que les sondeurs de la Maison-Blanche, il les a virés, en fait.
Oui, il a viré une partie des sondeurs qu'il avait engagés pour sa campagne parce qu'il les rend responsables des fuites qu'il y a eu vers ABC, parce que c'est ABC qui a sorti le scoop. Donc bon, ça paraît assez logique. Hein. Une campagne ne paye pas très cher des sondeurs pour retrouver des sondages internes dans la presse, surtout quand ils sont mauvais. Bon, il ne faut pas en faire trop état, parce qu'encore une fois, là aussi, il faut savoir raison garder. On est ces sondages-là, c'était fin mars, début avril, à 16 mois d'élection. On n'est même pas sûr que ce soit Biden qui soit son rival en face. Hein. Il y a encore toute une primaire démocrate à faire. Donc là-dessus, faut faire attention parce que ça lui donne plutôt du grain à moudre à Trump. Parce que évidemment, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait un montage de tous les sondages en 2016 qui disaient, ou de toutes les déclarations, je serai jamais, il sera jamais élu, il sera battu, etc. Et comme on dit, il met les rieurs de son côté. Et ça lui donne plutôt avantage. Ce qui est certain, c'est qu'il faut rappeler encore une fois, c'est qu'en 2016, c'est par la grâce de trois États traditionnellement démocrates, Pennsylvanie, Michigan, Wisconsin, des États industriels du Nord-Est, qu'il est devenu président en les remportant d'extrême justesse. Il est vrai que dans ces trois États, son approbation est encore plus faible qu'à l'échelon national. Ces trois États ont été repris par les démocrates qui sont gouverneurs de ces États. Il est mal placé dans ces trois États, c'est clair. Après, peut-être qu'il est capable de gagner ailleurs.
Il est mal placé, mais est-ce que des projections de mi-mandat ont un sens pour une élection générale, réellement ?
Alors, dans ce cas, davantage, parce que là, on parle d'élection. On a vu que vraiment, dans ces trois États, alors un petit peu moins dans le Wisconsin, où ça reste plus serré, mais en Pennsylvanie, en Michigan, il y a vraiment une sorte de reflux anti-Trump. Donc, ça va être compliqué. C'est pas impossible, hein, bien sûr. On a vu qu'il parle très, très bien à l'électorat populaire blanc. Mais il peut déjà... Il est un peu aussi un homme politique. Maintenant, il peut y avoir une déception anti-Trump. Il peut y avoir... Et effectivement, au moins dans ces deux États-là. Ensuite, attention, il y a des États, par contre, et ce n'est pas pour rien qu'il a choisi la Floride demain. En Floride, par contre, c'est, on va dire que ça paraît plutôt bien parti pour lui. C'est un État qui a vraiment basculé conservateur. Aujourd'hui, il y a un seul élu de l'État qui est démocrate. Hein. Le ministre de la Justice, le gouverneur, tous les grands élus de Floride sont tous républicains.
Au fond, c'était Obama qui gagne la Floride, qui était un accident de parcours. En fait, la Floride revient dans son giron naturel.
Voilà, c'est vrai. Depuis 25 ans, on l'a noté, la Floride est quand même républicaine. Hein. Le gouverneur est républicain depuis Jeb Bush. C'est vraiment un État qui a plutôt viré conservateur, en particulier avec les Cubains de Miami, hein, qui sont une fraction très conservatrice, très pro-Trump. Et donc, voilà, les États qui sont traditionnellement démocrates semblent revenir plutôt au bercail, hein, Pennsylvanie, Michigan surtout. Mais c'est vrai que, par contre, en Ohio, en Floride, en Iowa, là, il a l'air plus solide.
Bonsoir Grégory Phillips.
Bonsoir à tous.
On parlait justement de ces États, effectivement, Wisconsin, Michigan, Pennsylvanie. Vous en revenez de Pennsylvanie, justement, Grégory, au milieu de ces gens qui, eux, alors c'est un peu effectivement l'électorat populaire blanc dont parlait Corentin Célin à l'instant.
Exactement.
Mais des gens qui n'ont pas changé d'un iota leur vision de Trump ces deux dernières années.
Oui, particulièrement dans la ville de York où j'étais hier en Pennsylvanie. Il se trouve qu'à York, il y a une usine Harley-Davidson qui fait travailler environ un millier d'ouvriers. Et je suis allé hier matin, dimanche, à la Freedom Biker Church, qui est l'église, si vous voulez, qui à York et en Pennsylvanie regroupe les bikers chaque dimanche matin. Donc c'est une population ouvrière, blanche et résolument trumpiste. York avait voté, je crois, en 2016 à 63 ou 64% pour Donald Trump. Et les gens que j'ai rencontrés hier, ces ouvriers de Harley, même si Harley est impacté par les tarifs imposés par la Maison-Blanche, ben ils restent définitivement trumpistes. C'est sans doute le signe qu'en tout cas le socle, la base électorale, ceux qui ont porté Trump en 2016, sont encore derrière lui aujourd'hui.
Sauf que la base, Grégory, n'a pas été élargie, justement. Ce sont ceux qu'on retrouvait déjà en 2016, qu'on retrouve aujourd'hui, mais est-ce qu'ils ont fait
déjà
des petits,
convaincus,
voilà,
exactement.
Est-ce qu'ils ont fait des petits réellement ces gens-là autour de, y compris là autour de l'endroit où vous êtes, ça c'est pas sûr en revanche, en tout cas pour l'instant.
En tout cas, les gens que j'ai rencontrés et pas forcément des militants trumpistes disent tous que l'économie qui va plutôt bien ici aux États-Unis sera important, et ça peut-être amener quelques personnes à aller vers Trump. Vous savez, il y a quelques semaines aux États-Unis, on a reçu nos retours d'impôts, l'IRS, le fisc américain, exactement, les tax returns, chercher l'expression, nous rembourse en fait de ce qu'on a avancé l'année précédente.
Parce qu'il y a beaucoup de gens aux États-Unis, pour expliquer aux gens, on paye sur ce qu'on imagine de ses revenus de l'année suivante en fait, et donc quand on a eu trop perçu ou pas, on reçoit un chèque.
Et chaque année, vous recevez un chèque. Et là, la plupart des gens me parlaient de ça assez rapidement, en disant, tiens, j'ai gagné $1,000 de plus que l'année précédente. Donc, regardez les réformes de Trump, la réforme fiscale, ça marche et l'économie va bien. Donc, il y a quand même ce sentiment, en tout cas dans ces États ouvriers, industriels et ruraux comme la Pennsylvanie, l'impression que l'économie marche plutôt bien.
Et c'est important, effectivement, ce chèque reçu, ça dit quand même beaucoup de choses. Vous êtes revenu avec Jackie dans votre besace, Grégory, je voudrais qu'on l'écoute.
Il a rendu sa grandeur à l'Amérique. Une grande majorité de gens ici pensent ça et le soutiennent. Ils adorent tout ce qu'il a fait pour l'Amérique. Nous, on achète des produits américains. On aime ce qui est fabriqué ici. Et lui, avec les droits de douane qu'il impose aux autres pays, il fait ce qui est bien pour notre économie. Bien sûr qu'on soutient Trump. Il fait du bien à l'économie. Il favorise les produits made in America. Ces tarifs, ça marche.
Ça marche, Grégory, dit Jackie. Alors, Corentin, c'est l'analyse à l'instant. Effectivement, c'est vrai que le chômage, par exemple, est à son plus bas niveau. Ça, c'est des choses qu'on peut pas enlever. La fameuse phrase qu'on prêtait autour de Bill Clinton, « It's the economy stupid », c'est bien l'économie. Bah, ça marche pour Trump, là, pour le coup. C'est presque une donnée objective, non?
Oui, alors ça marche. Les tarifs, les droits de douane, c'est quand même à double tranchant, hein, parce que dans une guerre commerciale, les Américains sont quand même très conscients que si le bras de fer s'intensifie avec l'Europe ou avec la Chine, tous les produits qu'on va importer ici aux États-Unis coûteront plus cher. Il y avait le même enjeu avec le Mexique. Donc ça marche parce que ça montre à cet électorat que Trump dit « America first ». C'est un slogan de 2016, on verra s'il le ressort demain en Floride. Et le revers de la médaille, c'est qu'il y a quand même un risque dans ces guerres économiques que Trump déclenche semaine après semaine, que la vie coûte plus cher aux Américains, tout simplement.
Merci beaucoup, Grégory. Vous restez avec nous. Évidemment, Corentin Célin, vous le disiez, oui, effectivement, objectivement, ça marche. Alors, qui va réellement être touché par ces histoires de tarifs et de droits de douane? On verra ce que ça donnera. Mais on a un peu l'impression quand même qu'il y a beaucoup de choses auxquelles Trump est imperméable. Vous faisiez allusion à l'enquête Mueller, par exemple. Alors, les fameuses collusions et donc les avalanches de tweets que ça déclenche. On a l'impression qu'il est un peu imperméable à ça, quand même, ce président, et que ces gens-là qui votent pour lui sont intégralement imperméables à ce genre de choses.
Oui, alors son électorat est totalement imperméable. Hier, il y avait un sondage NBC Wall Street Journal qui montrait que parmi les Américains sondés, on leur demandait est-ce que vous voulez un début immédiat d'une procédure d'impeachment. Il y avait 6% de républicains qui le désiraient. Voilà, donc c'est clair et net. Les républicains, Mueller, tout ce qu'on parle de l'impeachment, ils s'en fichent. Par ailleurs, lui, Oui, il s'en est très bien sorti parce qu'il a très bien articulé la communication de publication autour de la publication du rapport avec son ministre de la Justice, son nouveau ministre de la Justice, Barr, qui a fait un travail vraiment de contrôle de l'information tout à fait remarquable d'un point de vue politique. Et par ailleurs, je crois que Trump montre à quel point le Watergate était l'anomalie. Le Watergate, ça a pu avoir lieu, parce qu'on a toujours cette référence dans la tête, parce que Nixon, président républicain, avait face à lui deux chambres, mais majoritairement démocrates, à une majorité écrasante, et que ce sont ces deux chambres qui ont fait en sorte de l'acculer à la démission. Aujourd'hui, Trump, il a une majorité nette au Sénat, en plus avec des sénateurs dont beaucoup ont été élus récemment sur sa ligne, et il est, y a rien qui peut se passer. Y a rien qui peut se passer, parce que même si la chambre démocrate bouge, le Sénat républicain protégera.
Mais qui est encore, d'ailleurs, et notamment parmi les candidats démocrates, parce qu'on va y venir, qui est encore favorable à lancer une procédure d'impeachment ? Est-ce que Elizabeth Warren, par exemple, qui en a beaucoup parlé à une période, est toujours dans l'idée de lancer cette procédure-là ? Est-ce que ça a du sens de jouer avec ça autour de Donald Trump, en fait ?
Alors, c'est tout le paradoxe. Là, il y a un vrai paradoxe dans l'élection en ce moment. C'est que il faut surtout pas que les démocrates lancent cette procédure d'impeachment qui échouerait au Sénat. Ce serait un véritable suicide politique. Et ça, par exemple, Nancy Pelosi l'a bien compris. Mais par contre, cette procédure d'impeachment, elle n'est populaire qu'auprès de la moitié des électeurs démocrates les plus politisés, les plus engagés, ceux qui vont voter aux primaires. Donc, il faut absolument que les présidentiables disent « moi, je suis pour l'impeachment », et on voit plutôt, ils sont plutôt en train de s'aligner en disant « oui, oui, il faudrait quand même faire un impeachment ». On a vu, par exemple, une centriste, une modérée comme Klobuchar, la sénatrice du Minnesota, qui a dit « oui, oui, mais finalement, je suis pour l'impeachment maintenant », tout en priant pour qu'il n'arrive jamais, en fait. Donc, c'est parce qu'en fait, il y a deux publics différents. Il y a ce qu'on dit à l'opinion publique générale et ce qu'on doit dire à l'électorat de primaire. L'électorat de primaire démocrate, il veut un impeachment, c'est clair. Il est très favorable parce qu'il est très chauffé à blanc, très partisan. Mais par contre, clairement, il ne faut surtout pas que les démocrates y aillent. Parce que s'ils y vont, c'est la catastrophe. Trump pourra dire après, regardez, c'est une opération politique et partisane contre moi.
Qu'est-ce qu'on peut dire de ceux qui sont... Alors, en effet, vous le disiez, hein, c'est tellement lointain. Le premier débat n'a pas encore eu lieu. Il aura lieu à la fin de ce mois-ci. D'ailleurs, on y reviendra dans un instant avec Grégory. Mais pour l'instant, ceux qui tiennent la corde chez les démocrates, Biden, Sanders, Warren, un peu Kamala Harris, Buttigieg parce qu'il a fait une belle campagne jusqu'à présent. Est-ce que ça dit des choses pour l'instant réellement ou est-ce qu'au fond ça dit pas grand-chose ? Ça parle de notoriété de Biden et celle de Sanders aussi et finalement pas beaucoup, alors, pas beaucoup d'autres choses.
Ça parle parce que Biden est vraiment nettement en tête, malgré déjà des révélations embarrassantes, des gaffes aussi parce qu'il a beaucoup de mal à se remettre à la campagne. Il est toujours aussi nettement en tête des sondages. Ça dit deux choses. Effectivement, il ne faut pas prendre ça trop au sérieux parce que ça dit surtout le fait qu'il a été vice-président, que tous les Américains le connaissent, alors que tous les autres candidats, sortis de leur état et parfois même dans leur état, pas grand monde les connaît. Mais ça dit aussi qu'attend l'électeur démocrate, c'est qui lui garantira de battre Trump ? Qui lui donnera la certitude de battre Trump ? Et effectivement, vu de l'extérieur actuellement, Biden a les meilleures chances. C'est un candidat expérimenté, qui a été vice-président, qui sait parler cru, donc il pourra s'opposer, on va dire, à la virilité affichée dans les campagnes par Donald Trump. Donc, a priori, c'est normal que Biden plaise.
Et qui reste un centriste, Corentin Célin, aussi.
Et qui reste un centriste, qui est né à Scranton, dans cette Pennsylvanie, qui est allé voir Gregory Phillips ce week-end. Donc, il parle à l'électorat populaire blanc. Effectivement, il présente a priori un bon cocktail. Sauf que ça, c'est un peu un Biden de papier, c'est un Biden rêvé. Plus on va avancer, plus on va se souvenir aussi que Joe Biden, avant d'avoir été le vice-président d'Obama, il a 35 ans de carrière politique préalable, qu'il a beaucoup de casseroles, qu'il est âgé aussi.
C'est un très vieux monsieur. Ouais.
Voilà, qu'il est né en 1942. Donc, pour beaucoup... Il faut quand même imaginer, ça c'est une statistique qui est assez importante, c'est que pour plus d'un électeur sur deux, plus d'un électeur sur deux en 2020 n'était pas né quand Biden était déjà sénateur. Donc ça, c'est quand même quelque chose à garder en tête. Donc, pour l'instant, ça dit sur sa notoriété, sur la reconnaissance de son nom, mais ça dit aussi sur le profil que les démocrates attendent. Qui peut me garantir de battre Trump ?
Est-ce que on a une idée de qui va voter surtout ? C'est-à-dire, est-ce que le vote noir, le vote latino, le vote jeune, encore une fois, autant de choses qui ont fait défaut à Hillary Clinton pendant l'élection générale, la dernière élection générale, est-ce que ces gens sont... au moment où on se parle, gonflé à bloc et prêt à retourner au vote, ou est-ce qu'on n'en a aucune idée au moment où on se parle ?
Alors, la seule chose dont on est... dont on est certain, c'est que toutes les projections indiquent une mobilisation, on anticipe une participation record en 2020, dans la lignée de la participation record pour des midterms en 2018, et qui passerait effectivement par la surmobilisation favorable aux démocrates des deux minorités principales afro-américaines et hispaniques qui votent très peu, hein, il faut le rappeler, qui ont un taux de participation dérisoire. Tout le pari de Trump, c'est au contraire d'être plutôt sur un scénario 2016 avec des blancs non hispaniques qui votent, eux, avec des taux de participation au-dessus de 70%, et de décourager les minorités, en particulier avec toutes les opérations de purge des listes électorales qui sont menées dans les États conservateurs. Lui, il est sur cette stratégie-là. Les démocrates, eux, justement, ils cherchent à mobiliser. Et la question, c'est, est-ce qu'un Biden de 76-77 ans, ça va mobiliser du jeune afro-américain, du jeune hispanique à venir voter?
On n'y est pas encore. Merci beaucoup Corentin Célin. Je ne vais pas vous laisser, Grégory Philippe. Avant, juste un mot, expliquez-nous très rapidement, vous avez 30 secondes, comment ça va se passer ce débat? Parce que quand il y a combien? 23 candidats, c'est ça? On en est à 23. Alors, comment ça se passe?
23 candidats démocrates. On en a écarté 3 qui n'étaient pas qualifiés parce que pas assez de collecte de fonds et pas assez haut dans les sondages. Donc, ils seront 20 à débattre à la fin du mois à Miami. 2 débats, 10 candidats le 26 juin, 10 candidats le 27. Et on va voir un petit peu. Bah, on va enfin parler peut-être un peu programme, même si effectivement les interventions seront très courtes pour chacun des candidats. Mais normalement, on devrait pouvoir un peu aborder les questions de fonds.
Mais 10-10,
et ça va être évidemment très intéressant.
10-10, Grégory, pardon, c'est quoi? C'est l'ordre alphabétique, c'est les plus connus?
Non, tiré au sort.
Tiré au sort. D'accord.
Tiré au sort. Okay. Bah voilà. Et je peux vous dire que le plus gros débat, c'est plutôt le deuxième où il y aura Sanders, Biden et je crois Kamala Harris.
Voilà, et Corentin Célin fait oui avec la tête. Merci beaucoup, Grégory. Merci à vous, Corentin, aussi, de votre passage d'un jour dans le monde.
France Inter, Fabienne Synthèse. Un jour dans le monde.
La suite d'un jour dans le monde, ça se passe à Lampedusa avec ce paradoxe. Au fond, l'île a voté Salvini, franchement, pour les Européennes, mais pas question de laisser mourir les migrants en face de la côte, pas question. On va les chercher donc, et ce sera l'escale reportage d'un jour dans le monde. Ce soir, nous irons sous les radars en Tchétchénie avec des femmes chauffeurs de taxi. Vous verrez aussi que les Russes veulent aussi une série sur Tchernobyl. Ils sont en train de la faire, mais ils ont une toute autre idée du scénario. Et puis le monde à l'envers. Bonsoir Jean-Marc Faure.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
Un avion de chasse tout neuf, Jean-Marc, présenté au Bourget, enfin une maquette. En tout cas, très bel accord. La France, l'Allemagne, un petit peu Espagne aussi, mais justement pour l'instant c'est qu'une maquette.
Ah oui, un projet franco-allemand ambitieux en termes de défense, c'est séduisant, mais la suite c'est un très 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 long parcours d'obstacles.
Et on verra ça autour de 18h55, le tour de la planète n'est pas fini, le chaloupe en reggae, il passe par la Jamaïque, voici Ina de Yard, Yao, à tout de suite sur France Inter.
Of you.
reggae, Ina de Yard sur France Inter. Yao, et c'est sur la playlist.
France Inter.
Good evening and welcome.
Un jour dans le monde.
Intervention extra.
Sous les radars avec Hélène Roussel. Hélène, on part en Tchétchénie où depuis quelques mois il y a des femmes taxis dans les rues de Grozny, la capitale.
Ça paraît banal comme ça, hein, sauf que ça l'est beaucoup moins dans cette société musulmane ultra conservatrice dirigée d'une main de fer par le protégé de Poutine, Ramzan Kadyrov. Au printemps dernier, Madina Tsakayeva a créé sa société Mekari. Mekari, ça veut dire fille en Tchétchène. Une compagnie de taxis conduit donc par des femmes, pour des femmes. Non seulement il y a foison de candidates, mais le concept a de quoi séduire aussi toute une clientèle, à commencer par les maris. Bah oui, pas question que leur femme monte dans une voiture avec un autre homme, là, si c'est une femme au volant, pas de problème. Bien commode du point de vue des normes religieuses et des traditions, le fonds émirati Zayed qui finance le projet ne s'y trompe pas, mais l'ONG locale, les femmes pour le développement, préfèrent voir le verre à moitié plein. L'apparition de ces conductrices de taxi, c'est avant tout pour elles un symbole d'émancipation, toute proportion gardée, n'est-ce pas, car pour l'instant, elles ne sont que 5 femmes taxis dans les rues de Grozny.
Allez, Tchernobyl, la mini-série de la chaîne américaine HBO, qui fait un carton qui est formidable, d'ailleurs déjà en tête des séries les mieux notées sur les sites spécialisés. Et évidemment, ça ne plaît pas tout à fait aux Russes.
26 avril 1986, le réacteur numéro 4 de la centrale de Tchernobyl en Ukraine explose. La série raconte le pire accident nucléaire du XXe siècle.
Un monde juste est un monde normal. Il n'y avait vraiment rien de normal à Tchernobyl. Le vent transporte toute cette fumée, toutes ces radiations. Vous avez affaire à quelque chose qui n'est jamais arrivé sur cette planète. Je vous ai dit ce que je savais. Je sais que vous essaierez de faire de votre mieux.
Oui, alors, aujourd'hui, on sait que l'URSS a tenté de cacher la catastrophe pendant des semaines avant de se résoudre à évacuer la zone, zone d'ailleurs toujours inhabitable à l'heure où nous parlons. Bref, la série, 5 épisodes, diffusée sur OCS en France, met en cause Gorbatchev et plus généralement tous les responsables soviétiques de l'époque. Son image est cornée, la Russie ne peut supporter. Les Russes vont donc proposer à leur tour une série sur Tchernobyl. On ne connaît pas encore la date de diffusion, en tout cas elle est financée par Gazprom, c'est intéressant. Et pour la trame, c'est simple, Tchernobyl, eh ben c'est la faute des Américains. Dans une interview, le réalisateur explique qu'il existe une théorie comme quoi des Américains avaient infiltré la centrale nucléaire et qu'un agent de la CIA était présent comme par hasard le jour de l'explosion. La piste du sabotage donc. C'est vrai que, dit comme ça, tous les ingrédients sont réunis pour un bon scénario, on ne dira pas le contraire. Mais enfin, il y a quelque chose d'ironique dans ce projet puisque la série version américaine cherchait surtout à faire dans l'autocritique d'un gouvernement américain qui manie fake news et post-vérité. C'est vrai aussi que l'URSS est présentée comme bien trop fière pour montrer ses faiblesses. Le temps a passé, mais visiblement, Fabienne, des deux côtés, pas grand-chose n'a bougé.
Et pendant ce temps, le FBI, lui, est très occupé. Il enquête sur Bigfoot.
L'abominable homme des neiges, le Yeti, le Migueux, le Barmanou, le Sasquatch, il a tous les noms, celui-là, car il est partout sur la planète, partout et nulle part. Mais le fantasme va loin, puisque donc le FBI a bien enquêté sur l'existence du Yeti, dossier secret pendant 40 ans, déclassifié il y a quelques jours. Dans les années 70, un passionné de la bête envoie au FBI un échantillon de 15 cheveux tenu par un infime bout de peau. J'abrège le suspense tout de suite, ces poils sont de la famille des cerfs. Soit. Mais quand le service de renseignement le plus prestigieux au monde se lance dans ce genre de quête, on a de quoi se poser quelques questions quand même. En avril dernier d'ailleurs, c'est l'armée indienne qui avait relancé la légende des empreintes dites mystérieuses postées sur son Twitter. Et au Bhoutan, il y a même des spécialistes comme celui-ci, interrogés dans un documentaire disponible sur YouTube.
Le Yeti est deux fois plus grand qu'un être humain. Il a une longue fourrure. Les anciens lui donnent la tête d'un singe. Tu peux le repérer à l'odeur depuis très loin. Et dans son dos, il y a une poche. Si tu venais te faire attraper par le Yeti, il te mettrait dans sa poche afin de mieux te transporter.
Bon, perso, je préfère la version Yeti dans Tintin au Tibet. Il était beaucoup plus sympa, celui-là.
Mais je ne
savais
pas que le Yeti est un kangourou. Surtout s'il a donc une poche
derrière, attendez, dans son dos.
Et donc, le Migueux, le Barmanou et le Sasquatch.
Ouais. Barmanou, c'est au Pakistan.
Bah dites donc.
Et le Migueux, c'est au Bhoutan.
Mais j'en apprends tous les jours. Allez, Hélène Roussel, merci beaucoup. À demain.
France Inter.
Doha, Harare, Jérusalem, Mecca,
le 18-20.
Le Mexique est juste derrière.
Un jour dans le monde.
Séoul, Washington,
San Paolo,
Beyrouth, France Inter.
Et Et c'est à Lampedusa que nous emmène l'escale reportage d'un jour dans le monde ce soir. L'île de Lampedusa au sud de la Sicile, vous savez, avec Matteo Salvini, qui est chez Donald Trump, tiens, depuis hier d'ailleurs, ne veut plus de migrants sur ses côtes. Il décrète que les ports sont fermés, c'est comme ça. Et voilà, sauf que Lampedusa, qui a voté pour Matteo Salvini, reste marqué par le terrible naufrage de 2013. Vous vous souvenez aussi, 366 morts, des hommes, des femmes, des enfants. Et Lampedusa accueille encore régulièrement les rescapés de la Méditerranée. Bonsoir Julie Pietri.
Bonsoir.
Vous en revenez, Julie, de Lampedusa, dans ce confetti qui fait 20 mètres carrés seulement, qui vote donc Salvini aux européennes, mais pour qui l'assistance en mer reste un honneur et aussi une obligation, Julie.
Ils sont juste à côté du terrain de foot. Un tas de bateaux en bois, éventrés, rouillés, qui cuisent au soleil. De frêles embarcations qui arrivent encore et que Sebastiano, l'entraîneur des gamins de Lille, scrute avec gravité.
Quand vous tirez la palla forte, lontana, qua, nel vostro campo, dove va finir la palla?
Quand vos enfants lancent le ballon fort, loin sur vos terrains de foot, où atterrit le ballon? Nos enfants, quand ils shootent trop fort et que le ballon passe au-dessus des filets, ce ballon finit à l'intérieur des bateaux où se sont assis d'autres gamins qui ont tenté ce voyage de l'espérance.
Dove ci sono stati altri bambini che hanno fatto questo viaggio della speranza.
Voir un enfant chercher un ballon de foot au milieu de ces bateaux, c'est une chose qui m'émeut toujours autant à chaque fois.
È una cosa che ogni volta è sempre la stessa cosa.
À Lampedusa, si les arrivées ont chuté depuis quelques années, les bateaux, si petits qu'ils sont surnommés ici les bateaux fantômes, accostent toujours. Ce jour-là, une barque étroite entre dans le port, avec à bord un bébé de 7 mois et une vingtaine d'hommes et de femmes sonnés, épuisés. Ils seront rapidement transportés vers le centre d'enregistrement au cœur de l'île. Francesco Bouchard est bénévole pour l'ONG Espoir Méditerranée.
C'est l'entrée principale du centre d'accueillance, de l'hotspot.
Là, vous avez l'entrée principale du centre d'accueil. Ce hotspot se trouve dans un endroit de l'île peu visible, peu accessible. Il est caché, il l'a toujours été. Le nombre de personnes ici n'a rien à voir avec les années passées. Depuis 2017-2018, les accords que l'Italie a passés avec la Libye pour empêcher les migrants de partir et les garder prisonniers en Libye, ces accords ont effectivement réduit le nombre d'arrivées. Le prix à payer est élevé quand on laisse des gens dans des conditions inhumaines dans les prisons libyennes. Mais le résultat est là. Les arrivées ont chuté.
Le résultat que nous voyons ici est effectivement un calo des numéros.
L'île de Lampedusa, 5000 habitants, eau turquoise, plage de sable fin, préférerait sans doute vivre au seul rythme des arrivées et départs des touristes. Jadis symbole de l'accueil et de l'ouverture, ses habitants se sont fortement abstenus pour les élections européennes et ceux qui ont voté ont préféré la Ligue de Matteo Salvini.
Je suis Giuse Nicolini, et je suis l'ancien maire de l'île.
Giusy Nicolini, ex-maire de Lille, prix UNESCO de la paix, fervente défenseur des réfugiés, a été, elle, sévèrement balayée lors des élections locales de 2017.
La mia idea di isola è di un'isola che
Moi, je vois cette île comme une île qui améliore la qualité de l'accueil, de l'accueil des touristes et des migrants. En ce moment, j'ai vraiment honte d'être italienne et d'être représentée par un ministre qui fait la guerre aux désespérés plutôt que de la faire au crime organisé. Un ministre qui fait la guerre à la solidarité et aux ONG. Parce qu'en fait, les ports sont fermés seulement aux ONG. Parce que les bateaux des gardes-côtes italiens, sauf exception, escortent les migrants jusqu'ici.
Le nouveau maire de Lampedusa est un fils de pêcheur, Toto Martello, qui reçoit dès 8h du matin dans son bureau, cigare à la main. Moins expansif, moins engagé, mais tout aussi agacé par la politique de Matteo Salvini.
Les maires sont élus pour s'occuper de leur territoire. Si un maire veut jouer au ministre des Affaires étrangères, il part à Rome pour s'occuper de politique internationale. Mais pour autant, c'est facile à comprendre. Si vous travaillez en mer et que vous assistez à un naufrage, vous n'allez pas demander la carte d'identité des gens en disant « Excusez-moi, vous êtes de quelle nationalité ?» C'est la règle de la mer. Quoi qu'il arrive, il faut essayer de secourir.
Après, s'il y a un problème avec les lois, vous pouvez en discuter quand vous arrivez à terre. Mais en mer, ça ne fonctionne pas comme ça.
Le sauvetage en mer, quoi qu'il arrive donc, question d'honneur sur cette île de pêcheurs. Tous ici restent marqués par le naufrage d'octobre 2013 quand les cercueils de 366 personnes, hommes, femmes et enfants, ont été alignés sur le port. Simone, patron d'un club de plongée, a alors aidé à remonter les corps.
En Italie,
les lois sur l'immigration ont un peu changé. Celui qui aide un migrant encourt une amende. Ça s'appelle favoriser l'immigration. Et en ce qui me concerne, si quelqu'un a besoin d'aide, je continuerai de l'aider. Je pense que personne, en voyant une personne se noyer, personne ne décidera de lui tourner le dos par peur d'avoir à payer une amende.
Demain, le maire de Lampedusa doit quitter son île sicilienne pour un rendez-vous à Bruxelles. Il travaillera sur un projet de voie de migration sûre et encadrée des pays d'origine aux pays de destination. Julie Pietri pour le reportage à Lampedusa et pour Un jour dans le monde. Merci beaucoup. Franz Ferdinand est là sur France Inter. Take me out. Inter, take me out.
Le 18-20, Fabienne Sintès.
sur France Inter.
Et le monde à l'envers, signé Jean-Marc Four, comme tous les soirs. Jean-Marc, c'est l'une des images du jour. Emmanuel Macron qui a dévoilé donc ce matin au Salon du Bourget la maquette du futur avion de chasse franco-allemand, une étape importante pour l'Europe et pour l'Europe de la défense surtout. Mais cette avancée cache mal tous les écueils encore à franchir pour cet avion de chasse, et c'est votre monde à l'envers.
Il est beau, mon avion, qu'il est beau. L'immense bâche a donc été levée ce matin. Vous avez peut-être vu les images, le prototype gris profilé avec son aile delta est apparu. Dans la foulée, un accord cadre de coopération a été signé par la France, l'Allemagne et aussi l'Espagne pour développer ce projet. Premier essai en vol en 2026, commercialisation à l'horizon 2040. Le symbole est fort, c'est celui d'une volonté politique. L'emblème, avec l'autre projet clé, celui du char franco-allemand, l'emblème d'une robe de la défense qui commence quand même à prendre un peu corps. Mais il y a vraiment une ribambelle de mais. Sous le vernis de cette belle image de ce matin, il y a de multiples incertitudes qui peuvent toutes faire capoter le projet. Alors la première interrogation, elle porte sur la capacité des différents industriels impliqués dans l'opération à travailler ensemble, tout simplement. En fait, il y a 5 volets d'études, je ne vais pas entrer dans les détails, mais il y a 5 volets d'études dans ce projet dit SCAF, qui intègre non seulement l'avion de chasse, mais aussi les drones, les missiles, bref, tout un système de combat aérien intégré. Et déjà, la répartition des tâches dans ces 5 volets a été compliquée, âpre négociation ces dernières semaines. Sur l'avion en lui-même, Dassault va travailler avec Airbus, ça ne coule pas de source. Sur le système de motorisation, deuxième exemple, le français Safran va coopérer avec l'allemand MTU, c'est pas gagné non plus. Il faudra surmonter des habitudes de travail, des préjugés, et chaque entreprise sera tentée de ne privilégier que son intérêt propre.
Et donc c'est là, justement, où la volonté politique est censée intervenir pour contraindre tout le monde à travailler ensemble.
Sur le papier, c'est tout à fait ça, sauf que là, on touche à la deuxième incertitude. La volonté politique, côté allemand en particulier, est-elle vraiment au rendez-vous? Autant l'engagement financier de l'État français est clair, 2,5 milliards sur 6 ans, autant celui de l'État allemand reste flou, a fortiori celui de l'État espagnol. En plus, à l'horizon 2040, on parle en fait de plusieurs dizaines de milliards qui seront nécessaires. L'engagement est donc flou, tout simplement parce que la coalition au pouvoir à Berlin hésite. Les sociaux-démocrates, ils rechignent à une hausse des dépenses d'armement. Et alors, l'hésitation est encore plus forte chez les Verts, qui ont quand même le vent en poupe en ce moment en Allemagne. Autant dire que l'après-Merkel va ouvrir une zone de doute sur le financement du projet. En plus, il y a des différences profondes entre Paris et Berlin, sur le fond cette fois. L'Allemagne persiste plus que la France à faire confiance aux États-Unis pour protéger l'Europe en termes de défense. Et surtout, il y a un désaccord sur les règles d'exportation des armes. Paris fait, en gros, du business. Berlin fait de la morale. On ne commerce pas avec n'importe qui. Et ça a conduit ces derniers mois à geler plusieurs exportations vers le Golfe Persique, des missiles, des blindés, des hélicoptères. Problème, ce fameux avion de chasse du futur, il ne sera rentable que s'il s'exporte. Il faut donc que les deux capitales s'entendent sur les règles d'exportation. Elles y travaillent, mais c'est loin d'être réglé.
Et sauf qu'on imagine que pendant ce temps, la concurrence, elle, fourbit ses armes.
Exactement. Et là où c'est troublant, c'est que la concurrence est aussi interne à l'Europe. C'est le troisième écueil. Bon, que les États-Unis exercent une grosse pression commerciale pour vendre leur propre avion, le F-35, rien d'étonnant, c'est même tout à fait logique. Là où ça se complique pour le projet franco-allemand, c'est que plusieurs pays européens ont déjà pris langue avec Washington. La Belgique, le Danemark, les Pays-Bas, la Norvège, la Pologne. Encore plus fort, voilà que les Britanniques, sur fond de Brexit, ont eux aussi leur propre projet d'avion de chasse, nom de code Tempest. Créneau visé, le même que l'avion franco-allemand. Calendrier, le même aussi. Et ils ont déjà convaincu l'entreprise italienne Leonardo, semble pouvoir convaincre aussi la Suède. Emmanuel Macron a beau évoquer, je cite, une concurrence ridicule. Le fait est là, l'avion franco-allemand n'est pas le seul projet européen sur la table. Pour mémoire, en Europe aujourd'hui, on ne compte pas moins de 20 avions de chasse différents. Des Américains, des Britanniques, des Français, des Suédois et même des Russes. Rien ne dit qu'il en ira différemment demain. Et rappelons que le dernier modèle de Dassault, le Rafale, ne s'est jamais vendu au sein de l'Union Européenne, en dehors de la France évidemment. On se résume, l'avenir de l'avion de chasse franco-allemand s'est un petit peu éclairci ce matin, mais ça reste un très long parcours d'obstacles.
Jean-Marc Fourré, le monde à l'envers tous les jours dans Un jour dans le monde. Merci beaucoup, on reste ensemble pour le téléphone sonne. Juste avant, il y a le journal de Sébastien Paour, c'est-à-dire maintenant, il est 19h.